Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h03, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic, bien sûr, comme tous les jours, de 15h à 18h, du lundi au vendredi. On est là, bien entendu. Nous sommes avec la petite Bartole. On la connaît dans le milieu, la reine de Wimbledon. Elle est là avec nous. Comment ça va, ma petite Marion?
Ça va, nickel. T'as vu, je suis rendu hommage dimanche. T'as pas entendu?
J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne m'a rien dit.
J'ai fait une petite intro en te citant.
Merci.
Rien que pour te rendre hommage.
Écoute, on cite toujours les grands. C'était la seule à être gentille avec moi.
Exactement.
Je t'en suis reconnaissant. C'est pas comme un que je connais.
Moi aussi, j'ai rendu hommage. J'ai rendu hommage dimanche, moi aussi. Bisous, Marion. Salut, Vincent. Salut, Adrien. Salut, Pierrot. Dis-moi, par contre, Vincent, il faut s'y filer un peu sur la bête parce que s'il y a des boutons comme les adolescents, à un moment donné, il faut quand même envoyer la purée, sinon tu vas avoir plein de boutons.
Je dis aux auditeurs, je me suis rasé avec un rasoir très très vieux qui était à mon beau-père. J'ai essayé de le faire remarcher, tout c'est un truc à roulette dessous, enfin un truc très compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Et je me suis tué, j'étais obligé de prendre, j'ai eu une infection, des antibiotiques, et là quand je me rase, on dirait l'adolescent.
Oui, Vincent, il a retrouvé un couteau de la Première Guerre mondiale, il s'est rasé avec, mais sans des antibiotiques.
Tout est normal.
Pourquoi il a attrapé le typhus?
Non, mais tout est normal chez les Moscato, il n'y a pas de souci.
Tu passes la lame à l'alcool à 90 quand même.
J'ai pas passé. Tu vois, c'est con. Il y a des trucs simples comme ça, on n'y passe pas.
Bon, Adrien, en tout cas, c'est très joli.
Ouais.
Comment ça va, les copains? Salut Marion, salut Eric, salut tout le monde.
Ça fait Jones.
Je suis à ta place, je referai une cure d'antibiotiques quand même.
Ouais. Ouais, j'ai fait... Non, j'en ai marre des antibiotiques. Après, tu lâches des fèves terribles. Comme...
Ah oui, d'accord. Si tu préfères avoir un abcès à la gueule et puis. Ouais,
bon, non.
Je suis très fier de la question moyenne du jour. C'est une belle semaine de Ligue des Champions et c'est tout à fait probable. En barrage, il peut y avoir, c'est probable, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Un 16e de finale de Ligue des Champions. C'est une possibilité.
Ça tomberait bien cette année parce qu'on les a bien amenés cette année.
Question moyenne. S'il y a un Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille en 16e de finale de Ligue des Champions, pour les Parisiens, ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Non, c'est pas bon.
Paris serait favori
Paris est favori, le problème c'est que là quand même les autres
mauvaise nouvelle.
Non, c'est pas bon.
Match aller-retour
C'est pas bon parce qu'ils ont cette année par rapport à la forme du moment du PSG, par rapport à la saison qu'ils font,
ils sont cloquables,
ils sont prenables. Autant l'an dernier il y avait pas de photo, pas photo, là c'est pas une bonne nouvelle. Je pense pas.
Imagine Marion si tu étais supportrice du PSG.
À moins qu'ils retournent comme
les autres. Ah non, j'arrive pas à imaginer. Là excuse-moi. Là ça m'est impossible.
Tu tires sur l'OM, tu dis quoi?
C'est au-delà. Même sans être partisan de rien, quand on analyse quand même les deux derniers matchs, y a une victoire au Vélodrome pour Marseille, que tu le veuilles ou non, et à une minute près, il y avait quand même une autre victoire pour l'Olympique de Marseille.
Donc Marseille s'est qualifié. Voilà.
En tout cas, c'est pas un mauvais tirage pour
Eric. Toi aussi, Eric, t'as le gros bonheur. Mets-toi dans l'aile pour le supporter parisien.
Alors, moi, je pense que ce serait une mauvaise nouvelle pour les deux, parce que c'est jamais. Moi, j'ai pas cette nouvelle formule où l'an dernier ça a été le cas. C'est quand même bien la Coupe d'Europe.
Mais là, c'est pas un match comme les autres.
C'est génial. Voilà. Non, mais ok. Mais bon, tu prends une autre équipe étrangère avec un grand nom, c'est quand même mieux.
Oui, mais bon, là, c'est le tirage. Avec sa question, moi.
Mais là, ta question, on répond à ta question, bien sûr. Et je suis d'accord avec Marion.
Pour Paris,
cette
c'est
année,
pas bon.
On les a bien la main, je trouve.
Voilà, Pierrot.
On prend une bras au parc.
C'est d'accord, ce ne serait pas une bonne nouvelle d'abord parce que tu peux avoir un adversaire plus faible en barrage pour
un
Paris.
Peu plus faible.
Et ensuite, parce que tu as tout à perdre et absolument rien à gagner.
C'est vrai.
Non, ce sera un tirage pas très.
Vous répondez.
Engageant pour le Paris Saint-Germain.
Sur Twitter, vous répondez à 55%. Ce tirage au sort pour les Parisiens, ce serait une mauvaise nouvelle.
55%.
On les a bien la main.
Équilibré.
Et là, 4-0.
Eh oui.
Chaque fois, c'est vraiment une mauvaise personne.
Oui,
en fait.
Oui.
C'est pas possible.
Ça me fait penser quand j'envoie les textos juste à la fin du match, quand ça se passe bien. Et il faut pas l'ouvrir.
Alors, la Ligue des Champions, on démarre par l'OM, on parlera du PSG demain. L'OM joue-t-il un match historique? Le mot a été prononcé par Roberto De Zerbi. C'est pour raison pour laquelle on a choisi ce débat. Le multiplex, pour finir, le multiplex demain, 18 matchs en même temps. Êtes-vous convaincu? C'est la deuxième saison de cette formule. Et puis à 17h, le 15 de France, les Bleus sont-ils favoris, comme le pense Steve Borthwick, le coach anglais, Vincent, 32-16. Journal moyen. Adrien, 15h45 Adrien.
Vendredi soir, Vincent Moscato, qui ne demandait rien, a été attaqué par un candidat de Danse avec les Stars.
Non.
C'est gratuit. C'est méchant.
C'est moche.
Et en plus, la personne en question danse très mal.
Rendez-vous
à 15h45.
C'est
un ami de Vincent.
Je l'ai pas vu.
Oh, tu as tout fait avec lui.
C'est vrai.
Tu as fait beaucoup de choses avec lui. Et puis.
J'ai tout fait avec lui.
Ça, on ne veut pas savoir. Et si vous voulez acheter une Formule 1, Marion, je sais que tu es fan de Formule 1.
Oui.
Ça se passe maintenant à Paris. Si tu veux passer un coup de fil à un hôtel ou une vente aux enchères, maintenant. Okay. Rendez-vous 15h45.
Alors, moi, je vais te dire, j'ai vu un truc. J'ai vu un moteur de Formule 1. Brillant et tout, mis sous une table en verre dans un salon. Le mec, c'était un vrai moteur.
Ça, t'as vu ça où,
c'est magnifique. Alors, ça, c'est vraiment les décorations nouveaux riches, ça. Oh là, zéro goût.
Un Arbat,
allez,
t'as vu ça,
allez, dégagez, moi 12.
Alors, écoute-moi, en termes de goût, j'étais chez toi, Eric. Je sais pas. Cagolonade, j'éviterai le problème. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle qui est arrivée. Ce soir à 20h, Christelle. Oui. Fait un cours de pilates, Eric.
Le prof de ma chérie, il a immigré à Paris, quoi. Non, mais c'est méchant. Toutes les attraper, oh.
Cornard à 60 ans, quand même, non?
Il n'y a pas d'âge, Vavin.
Et puis, le club omnisport d'RMC a encore frappé, puisque nous allons parler tennis avec Marion. Novak Djokovic, qui a eu l'occasion de se reposer au tour précédent. Donc, il y a peut-être une opportunité d'aller loin. Et puis, le slalom géant de Schladming revêt une importance incroyable à quelques jours des JO, puisque les Français vont devoir se déchirer entre eux pour obtenir la dernière place pour les JO. Alexis Peintureau a un sursis, Vincent.
C'est la Golden Goose.
On en parlera à 17h30. Première manche, 17h45.
C'est le vrai Golden.
Ah, c'est ça.
Ah, là, c'est incroyable.
Les mecs nous écoutent trop, d'après non moi, d'après moi, c'est le sens, c'est parce qu'ils écoutent le kick.
Tout de suite, l'Olympique de Marseille sur les sentiers de la gloire.
RMC, le Super Moscato Show.
Tu connaîtras la gloire, mon fils.
Dans ces championnats de merde.
Il est dit qu'un héros.
Grimoun et Grenet, les deux. Aubameyang et Grimoun.
En quête de gloire.
Attention à tout le monde ici. J'ai pas de couilles. J'ai 50 couilles.
Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue.
Maintenant, c'est à nous de faire le travail sur le boulot.
Il veut que les mecs soient tous impliqués dans le projet et qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde.
Immortalité ! Prenez-la ! C'est la vôtre !
Et voilà, moi je pense que cette histoire pour moi elle est close.
Mena une guerre qui restera gravée dans les mémoires.
Il y a un chrono qui va, mais qui avance aller chercher la petite bête.
Breaking news.
C'est pas beau ça.
Totalement gratuit.
Non, ça c'est. Ouais.
Donc,
c'est cadeau de la production.
C'est cadeau de la production. D'ailleurs, si vous voulez podcaster ces petites productions rigolotes, vous allez sur rmc.fr, les podcasts du Moscato Show.
Elle a du talent, cette petite.
Les prods de Suzanne, ça s'appelle.
Suzanne.
L'OM est à Bruges demain pour le dernier match de Ligue des Champions. La qualif est en jeu, même s'il y a de la marge. Hein. Roberto De Zerbi a qualifié ce match d'historique. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il exagère? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il en fait trop? 32-16. On l'écoute, Roberto De Zerbi. C'était à l'issue de la victoire face à Lens en Ligue 1.
On doit récupérer un peu d'énergie. Mercredi, ce sera un match historique pour l'OM. Bruges est une équipe forte physiquement. Contre Monaco, ils ont gagné 4-1. Ils ont mis aussi Barcelone en difficulté chez eux. Mais nous, on joue l'histoire de l'OM. Donc il faut forcément qu'on récupère cette énergie, qu'on prépare bien le match et qu'on donne le maximum.
Vincent, est-ce que c'est un match?
Non, mais... Bon, après, il dit pas historique, quoi.
Ah si, deux fois. Non, deux fois. Il dit historique au début et l'histoire de l'OM à la fin.
On l'a bien entendu, Eric. Hein. C'est une insulte pour Eric et ses amis, quand même, historique.
Un peu quand même, c'est pas,
non, mais si,
c'est
je veux dire, faux. Ils ont déjà été champions de France, ils ont gagné la Coupe de France, ils ont tout gagné. Ils ont bâché. Donc ça, se qualifier maintenant contre Bruges, rencontrer Bruges, c'est historique. Le problème, c'est qu'on crève de ça. On crève de la communication qui qualifie quelque chose de pas mal, de bien, c'est bien, te qualifie, c'est super,
un match important,
tout ça, un historique extraordinaire. On sait plus, après. On sait plus, ça veut dire que de rien, t'en fais un truc extraordinaire. Alors, je caricature, ce n'est pas rien. Bien sûr que c'est bien.
Il en pense pas un mot,
mais je pense qu'il nous prend pour les faisans.
Je sais quand même que
c'est un Italien, c'est un grand coup de mandoline, je te le dis. Il nous prend pour des gros faisans. Et puis voilà, il vient à la provoque, parce que j'ai l'impression qu'il aime ça, la provoque. Il aime ça, la provoque.
C'est la provoque pour toi, un peu?
Il joue avec les journalistes là. Là il s'est dit là, après le 3-0, je pense que il s'est senti un peu poussé une montée de sève et donc il est bien là, il est bien historique, il en rajoute sur les bienfaits de ses compétences à l'entraînement et de son énergie de lance qu'on le voit. Ils avaient tout le monde qui était au dos, vous voulez que l'OM perde, ils ont gagné devant l'adversité, c'est extraordinaire. Et là, ils jouent ce match historique qui, depuis 71, là aussi, c'est pas du culot. Moi, je dis rien. Quand tu commences à. Mais bien sûr que tu vas trouver des trucs. Dans tous les clubs, tu vas trouver un truc, à un moment donné, un truc qui va te sourire. C'est-à-dire, comment te dire,
une statistique qui va.
Oui, que jamais personne n'a fait.
Tu vois, toi, tu dors, je crois que c'est le seul entraîneur à avoir gagné les 8 ou 9 points.
Et à la fin de tous, ils n'ont rien gagné, quoi.
Oui, c'est le seul entraîneur qui a joué quand il était goal avec une casquette ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois, je vais te dire, tu peux trouver quelque chose. Donc, c'est encore.
Toi, tu es le seul talonneur à avoir joué en string un jour. Je me souviens, tu nous l'avais raconté.
Chez Jérôme, avec Dugas,
je suis souvent l'avocat de Zerbi parce que Dugas le désingue tout le temps. Et puis surtout, moi, l'an dernier, mon propos, c'était de diminuer ses responsabilités quand ça marchait mal, parce qu'il avait pas fait le recrutement, parce que c'est toujours compliqué quand tu arrives dans un championnat, voilà.
Là encore, ce
week-end avec sa communication, j'ai essayé de lui trouver des circonstances atténuantes. Moi, j'essaie toujours de mettre la responsabilité des joueurs, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, avant celle de l'entraîneur, parce que pour moi c'est le sport, c'est le protagoniste qui est le plus important et qui a les cartes en main. C'est simple, c'est soit il nous prend pour des cons comme dit Vincent et je veux pas le croire, soit il connaît pas l'histoire de ce club là quoi, et c'est un peu dommage parce que il a l'air d'être attaché à ça. Il nous parle souvent de son club de cœur,
mais c'est Eric, c'est qu'il joue avec qu'il nous il peut prendre les gens pour des cons et un peu jouer
alors,
et faire un peu de provoque, il y a une différence,
ok, mais moi je vais simplement remonter à 7-8 ans hein. Ouais. Il y a quand même une finale de Ligue Europa
2018.
C'est 2018 ou 2017?
2018,
7 ans.
L'année de la Coupe du Monde.
D'accord. Donc, voilà, il y a pas. Je veux même pas remonter jusqu'à ma génération et encore moins jusqu'aux années 70, puisque il nous a parlé des
Anigo fait une finale européenne. Roland Courbis fait une finale européenne.
Considérer qu'un match de Coupe d'Europe qui ne t'élimine pas si tu perds peut être historique, tu vois, c'est
y a pas d'enjeu.
Tu peux sortir, mais alors écoute-moi,
tu peux sortir, mais il faudra un concours de circonstances.
Mais peut-être qu'il parle de ça. Si l'OM sort là, c'est historique. C'est-à-dire que c'est la honte absolue.
On a déjà fait mieux, je crois. Si tu regardes un peu les dernières années, je crois qu'on a fait mieux dans la honte. Donc même
oui,
de ce côté-là,
ce
sera même pas historique, tu vois. Si tu te fais éliminer de
5e,
ben voilà, c'est pas quand tu fais 0 point D sur une campagne de Ligue des Champions quand même. Là, on a eu honte, les gars.
Ils sont pas là quand même, c'est chaud.
Donc oui, c'est chaud. Mais ça peut arriver. Mais il y a très peu de chances. Et donc, pour finir, après, je laisse Marion. Il faut qu'il fasse attention de Zerbi. Vous vous souvenez quand même que l'entraîneur de cette fameuse finale de Ligue Europa, si je ne me trompe pas, c'est Rudy Garcia. On est d'accord?
Oui.
Hein, c'est ça. Vous vous souvenez des conférences de presse de Rudy Garcia? Qui, pareil, il nous prenait pour un jambon tout le temps, en disant, si on n'avait pas pris 3 buts, on aurait gagné parce qu'on a perdu 3-1. Sauf que, il faut pas qu'il oublie de Zerbi, qui parle à des supporters qui connaissent le foot. Ils connaissent le foot. Quand ils attendaient Rudy Garcia, quand ils voyaient son équipe jouer comme des cochons, et qu'ils abonnaient 3 et qu'ils nous expliquaient que sur les 3, les 3, ils auraient pas dû avoir lieu, ils auraient pu gagner. À un moment donné, ça s'est retourné contre lui. Vous vous en souvenez quand même? Que les mecs pouvaient plus le voir. Donc il faut qu'il fasse gaffe parce que De Zerbi, il est très aimé par. Alors il est très clivant parce que.
Il n'aime pas trop le style, mais globalement il a l'air très
voilà,
populaire.
Globalement il est populaire. Qu'il fasse attention de ne pas avec cette communication quand même qui qu'on comprend pas toujours que ça se retourne pas contre lui. Voilà, ce serait dommage parce que déjà qu'il supporte pas quand il y a la moitié qui est avec lui, c'est qu'il y aura plus personne avec lui. Et je pense qu'il va partir à courant lui aussi.
Marion Bartoli, c'est un match historique.
Non, mais je suis complètement d'accord avec Eric et Vincent, et je ne vais pas redire exactement la même chose. Là où ils se trompent, c'est que bien sûr que c'est un match extrêmement important parce qu'il peut y avoir des retombées financières, parce que ça fait 10 ans que l'OM n'arrive plus à sortir des poules et que là, même sur un format différent, et c'est difficile de comparer les formats, mais bon, de facto, quand même, il y aurait une sortie de poule, donc il y aurait une progression, ça validerait son projet. Il y aurait bien évidemment un enjeu financier aussi important avec les primes de l'UEFA, avec la billetterie, avec le merchandising, avec tout ce qui revient, qui est associé à la Champions League, ça c'est sûr, et pourquoi pas la possibilité de jouer un très gros européen au Vélodrome et donc bien évidemment de continuer cette belle histoire avec les supporters. Mais je suis complètement d'accord avec Eric, les supporters de l'Olympique de Marseille connaissent le palmarès de ce club, connaissent ce qu'ils ont été capables de faire, et tu peux pas dire à un club qui a été dans la possibilité de remporter la Ligue des Champions et qui a fait même, comme ça a été rappelé, une finale de l'Europa League récemment, de dire que de sortir des poules c'est historique, c'est même faire affront quasiment à ce qui a été injure à ce qui était capable de faire l'Olympique de Marseille auparavant. Alors après, ce que je peux comprendre, c'est que pour lui, c'est un match extrêmement important. Bien évidemment, que ça valide son projet, que ça valide ses choix tactiques, que ça valide plein de choses. J'en suis persuadée. Je pense peut-être qu'il fait ça aussi pour maintenir ses joueurs sous pression. Mais je pense que les joueurs n'ont pas franchement besoin de ça pour être motivés pour aller gagner à Bruges sur une équipe qui, certes, a posé des problèmes au Barça, qui est venue quand même avec une grosse équipe, mais quand même sur les 10 derniers matchs de championnat belge, ils en ont perdu 4 fois. Ils ont été éliminés la Coupe de Belgique à domicile. Ils sont 3e de leur propre championnat. Donc ça reste.
Et même en Ligue des Champions, il y a un coup face au Barça, mais sinon c'est zéro. Hein. Ils ont battu des équipes qui n'avancent pas, Monaco et Almaty.
Et puis ils ont un zéro clean sheet sur les 13 derniers matchs. Donc je pense que l'OM, effectivement, avec cette victoire contre Lens, s'est vraiment relancé pour aller chercher ce match. Mais historique, l'adjectif me semble beaucoup trop élevé par rapport à ce match.
Il surréagit, Vincent. En fait, il prend pas la pression, c'est ce que tu disais hier. Peut-être qu'il ne supporte pas la pression. Non, non. Et pour lui, c'est totalement disproportionné les critiques qu'il y a eu ces quelques semaines, ces derniers jours, par rapport à ce qu'il est en train de faire factuellement.
Je te l'ai dit qu'il était fragile.
Lui, il doit se dire, moi, je remplis mes objectifs. Je suis pas largué en championnat, ça se passe plutôt bien. Et je vais remplir l'objectif qui est de sortir de la poule, a priori. Ça va le faire.
Et oui, du coup, toujours en Coupe de France.
Du coup, il surréagit, il provoque un peu en disant moi j'ai rempli mes objectifs, arrêtez de m'emmerder en fait. Et donc il prononce ce mot historique.
Voilà, il se rassure lui-même. Provoque. Il se rassure lui-même en se donnant des airs de.
Oui,
de,
et puis même il se fait un peu mousser. Si tu te qualifies, c'est historique.
Il a besoin de ça, parce qu'il est un peu fragile. C'est comme le mec qui siffle dans la nuit en plein mois pour se donner du courage. C'est pareil,
parce
ça sert à rien. Parce qu'il a peur des loups. Voilà. Et des loups.
Non, mais ce qu'on peut pas lui enlever. Ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que ça fait depuis la saison 2011-2012 que lorsque l'OM était qualifié en Ligue des Champions, ils sont pas sortis des poules.
Mais bon,
ça, on peut pas
Marion
lui enlever.
Brest l'a
donc
fait
ça fait 10 ans
c'est...
quand même.
Voilà, la formule
oui,
fait
mais
que
d'accord,
doit sortir.
Je suis d'accord avec toi, mais dans le contexte, tu connais que la manière dont tout est amplifié à l'Olympique de Marseille, on sait très bien que si malheureusement ils ne sortent pas des poules. Derrière, mentalement et émotionnellement, pour se relancer dans la saison, c'est compliqué. Donc,
c'est vrai. Non, mais
je
c'est
comprends
un match
que lui soit sous pression.
On va dire que c'est un match
parfaitement.
Où ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que la probabilité de ne pas se qualifier, elle est hyper faible et ça serait une catastrophe. En revanche, tu te souviendras pas de la saison de l'OM en cours pour une simple qualification en 16e. Tu t'en souviendras si ça va plus loin, s'il y a une victoire en Coupe de France, s'il y a un titre de championnat de France. Mais pour être sorti des poules, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est pas ça qui va marquer la saison de l'OM en tout cas.
Je
vais même plus loin parce que c'était le même match avec une autre formule qui était tarabusquée là à l'époque là. Mais rappelle-toi l'année donc en 93 l'année de la finale à Munich. Tu fais ce match-là qui est une sorte de demi-finale alors que c'est le dernier match.
C'est un match de poule mais qui vaut une demi.
Voilà. Ouais voilà mais bon c'était mais bon il tâtonnait encore l'UEFA là et les gens cette saison-là le match Le match référence, le match historique, c'est celui que tu fais à Glasgow, où tu gagnes 2-0, où entre, ils reviennent 2-2, avec un rythme pas possible, avec
voilà,
et sous la pluie, et c'est ce match-là qui, si tu demandes aux gens qui l'ont vécu, ils se souviennent plus de ce match-là que celui à Bruges finalement, qui était pas extraordinaire.
Il n'est pas dans la légende de l'OM.
Il n'est pas exactement. Moi, cette année-là, pour moi, le match, même pas le fédérateur, c'est ce que tu fais à Glasgow. Dans un environnement un peu particulier, hostile, avec ses supporters, la pluie, le résultat, le renversement de match,
c'était
plus que celui. Donc c'est pour ça, c'est pas obligatoirement le mot historique ne vient pas obligatoirement sur des matchs qui sont.
Tu ne joues pas Bruges, toi, Eric. D'ailleurs,
non, je ne joue pas. Je suis suspendu, moi.
Suspendu. Ah ouais.
Mais oui, oui. On n'y avait pas pensé, dis donc.
De la parole à Xavier. Supporter de l'Olympique de Marseille qui a composé le 32-16 pour débattre de cette déclaration de Roberto De Zerbi, un match historique face à Bruges demain. Salut Xavier.
Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous?
Bonsoir, bonjour.
Ah, disons, juste en préambule, Marion, j'adore ton émission, je l'écoute tous les jours.
Non, n'exagère pas non plus.
Il a voulu dire en podcast.
Non, il a voulu te chauffer.
Il a dit un podcast tous les jours.
Je déconne, pas faire Stephen Brun.
Non, t'as pas le droit. Alors là, je raccroche. Je vais te blacklister.
Ce sont deux émissions qui ont leur qualité.
Ils sont pas mauvais.
Voilà.
Surtout des gros défauts, mais c'est pas grave.
Allez, on t'écoute.
Oui, très bien. Alors du coup, sur la dimension historique, non, je pense qu'en fait, c'est un peu Vincent qui a résumé ça. Je pense qu'il se chauffe et il veut se donner de l'importance si jamais ça passe. Clairement.
Il ne croira pas.
Il s'approprie le truc. Voilà.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et surtout, moi, j'ai une autre théorie. Je ne sais pas si vous l'avez évoquée. J'étais au standard, j'ai pas trop écouté. Du coup, moi, je pense qu'en fait, il grossit le trait pour en fait répondre à Jérôme et Dugas.
Encore ?
Il avait chauffé.
Oh non, mais il peut pas réagir par rapport à eux quand même, non ?
Ah bah,
Il le fait souvent.
Mais pourquoi tu penses ça, toi ?
Bah, je pense que c'est de l'ironie appuyée parce que là, il est dans l'agacement, la pression, le club, le contexte, etc. Et c'est peut-être sa manière de se défendre alors qu'il est maladroite parce que, comme disait Eric, on crache pas un peu sur l'histoire avec toute la dimension historique qui a pu traverser le club. Mais là, je pense qu'en fait, c'est l'ironie appuyée en contre-attaque à Liga. Et Jérôme, pardon.
C'est une théorie qui est possible.
Dugas, il a pas son pareil pour se mettre les mecs dans la poche.
Ah, mais il aime ça, Dugas.
Dugas ne prend pas de pincettes. Il a quelque chose à dire, il le dit. Ouais. Si ça doit froisser les acteurs du foot, il s'en fout complètement. Ce qui est assez rare, finalement.
Il a joué avec lui.
Ils se sont croisés.
Je crois que quand Dugas est à Milan, je sais pas s'il est arrivé encore.
Parce qu'il est plus jeune, Roberto.
Marcel
De Sailly l'a vu arriver au centre de formation.
D'accord.
Mais donc Dugas est arrivé après Marcel.
Il était bon, Dugas. C'est un bon joueur. Non.
Bah, quand tu fais le centre de formation du Milan AC, tu es pas.
Oui, mais c'est pas une grande carrière.
Il a pas les pieds carrés comme Mourinho, quoi. Mourinho, il a pas jamais.
Mourinho, non.
Mourinho, il était dans un cirque qui faisait des jongles.
Il imagine. Mourinho, il sait pas jouer au foot. C'est incroyable.
Je sais pas si. Il n'a pas joué au foot,
mais pas beaucoup.
Il a même pas fait de carrière, je crois. Enfin,
merci
à
Xavier.
Goethals, c'était un très grand footballeur.
32-16. Dans un goal. Instant, y a-t-il un espoir pour Novak Djokovic qui a pu recharger les batteries et qui va disputer son quart de finale la nuit prochaine face à Moussetti.
Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis que tu as attrapé des boutons en te rasant, mais tu en as un sur la langue.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h29, le Super Moscato Show. On y revient, bien entendu, au Mastic. On est là tous les jours, à Mario Bartoli. On fait le plaisir, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Je te dis,
je suis là avec toi.
Ça, c'est très cher, hein, ça coûte très très cher de l'avoir avec nous, mais bon, ça nous fait plaisir.
Tu me donnes un Coca Light, tu me donnes un Coca Light et c'est bon, ça
se il y en a un qui nous coûte une tonne aussi.
Ouais, bon, on rigole avec lui, on rigole.
C'est un historique.
C'est une légende.
C'est une légende, c'est une
légende. Je me dis que tu m'as fait rêver quand j'étais petit.
C'est sur NBA. Sur NBA, on ne paye pas comme ça. C'est une légende, non, c'est une légende. Adrien, Piro, mon petit Piro dans demi-heure, casse le.
Alors, deuxième saison de cette nouvelle formule de Ligue des Champions, on arrive au dénouement. Demain, il y a un multiplex. Vincent va y avoir des buts dans tous les sens. À un moment, on va être perdu, et puis à la fin, il y aura des heureux, des malheureux, des qualifiés, des éliminés, des barragistes. Est-ce que vous êtes convaincu? Voilà. Demain, on va vivre un truc un peu spécial.
Ah ouais,
c'est 18 matchs en même temps.
Tu te dis,
de quoi dire.
Une vraie légende. Une vraie légende. C'est-à-dire, ça s'échappe pas quand il faut aller jouer à Bruges. Il a pas joué parce qu'il caca que l'autre.
Ah, tu crois qu'il a peur? Il a fait exprès de prendre un carton jaune le match d'avant.
Alors, normalement, il y a prescription.
Vas-y, vas-y.
Il y a prescription et c'est pas beau. Mais en effet, c'est contre Glasgow.
Non.
Je crois que je fais exprès de prendre un jaune pour être sûr de faire la finale en cas d'éventuelle finale.
Ah oui.
Ouais, parce qu'à l'époque, ils ne remettaient pas les compteurs à zéro comme aujourd'hui. J'étais en sursis, donc je prenais un carton à Bruges, je faisais pas la finale.
Ah ouais, non, mais là,
affreux. C'est tactique.
Et comme, si tu veux, c'est pas comme le mec qui prend un tous les 10 ans de carton. Celui-là, il s'en fout. C'est que, tu vois, moi, je savais que j'en prenais un par match. À un moment donné, tu calcules, tu vois.
T'es habitué.
T'as bien l'avoué.
Dans l'équipe ce matin, Eric, c'est
je
fou.
Je l'ai jamais avoué, mais je suis pas fier de ça. Mais c'est pas la première à l'avoir fait, d'ailleurs.
Ce match à Bruges, Eric, c'est Ferreri qui joue. Moi, je m'en souvenais plus, titulaire. Ce qui est dingue, qui a pas beaucoup joué cette saison avec vous. Hein.
Ferreri, quoi, Lolo, quoi.
Ouais. Tu vas jouer
Lolo Ferreri.
Jean-Marc Ferreri, légende.
Je te perds de Dimar énorme. T'imagines la rate sur le terrain.
Allez, cri du cœur.
Lolo Ferreri, quoi.
Ferrari.
RMC. Le cri du cœur du super Moscato.
Nous sommes en direct avec Eric Salio de Melbourne. Bonjour, Eric.
Bonsoir à tous.
Comment il va? Avant de parler de Djoko, le point météo, chaleur accablante à Melbourne.
Oh là là. 45 degrés, non mais c'est un truc, moi j'avais jamais vu ça. Tu mets pas le nez dehors, c'est impossible. Tu avales de la chaleur, c'est un record quasiment depuis 20 ans. Donc voilà, les allées étaient vides et heureusement donc ils ont des installations formidables avec la Rod Laver Arena qui est climatisée et puis la Margaret Court Arena. Mais c'était une drôle de sensation aujourd'hui à Melbourne. Et ce qui est dingue, c'est que demain on va perdre 20 degrés. On va perdre 20 degrés.
Je t'imagine un pantacourt dégueulasse. Oh là là, tu vas être quelle image des Français qui nous avaient des claquettes en cuir.
Non,
cuir, c'est claquettes en cuir. Tout ça, tu savais qu'il y avait tennis.
Il y a tout ça.
À ce niveau-là de la compétition, il y a encore des matchs sur les cours annexes, Eric.
T'es fou. Mais tu peux pas jouer. Non, ils avaient tout arrêté. En fait, ce qui est drôle, c'est que le premier quart de finale féminin entre Zabalenka et la petite américaine Jovic s'est joué dans une condition normale. Et dès que Zabalenka était interviewée sur le court, ils ont fermé le toit parce qu'on était passé à l'indice 5, le fameux indice 5 qui a sauvé Sinner il y a quelques jours.
Alors, on va faire un point sur le tableau masculin. Il y a une première demi-finale qui est connue, c'est Zverev Alcaraz. Et la nuit prochaine, il y a deux quarts de finale qui sont des très belles affiches, très alléchantes. Sinner Shelton et Musetti Djokovic. Il se trouve que Djoko a bénéficié du forfait de Jakub Mensik en quart de finale, en huitième de finale. Donc, il a pu recharger les batteries. Y a-t-il un petit espoir que ça aille au bout pour Djoko? Est-ce que ça compte vraiment ce huitième de finale là, Eric?
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une statistique, c'est que ça lui est déjà arrivé à trois reprises de bénéficier d'un forfait en cours de tournoi.
Il a gagné trois fois.
Et il n'est jamais allé au bout. Mm-hmm. Il n'est jamais allé au bout. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner le match suivant. C'est le match le plus abordable. Hein. Musetti, il a vraiment l'ascendant sur l'Italien. Je crois qu'il y a 9-1 au face-à-face. Et si jamais donc il bat l'Italien en laissant pas trop de gomme. Mmh. Il y aurait une probable demi-finale vendredi contre Sinner, parce que bon, on voit mal comment Sinner pourrait sauter contre Shelton, même si l'Américain a fait de gros progrès.
Donc voilà, Shelton peut l'embêter un peu quand même, non?
Oui, il peut l'embêter, mais à mon avis, il pourra pas le battre. Mm-hmm. Sinner, okay. il a sauvé sa peau contre Spizziri avec ce coup de gong mémorable. Enfin, qui est tombé vraiment à pic au bon moment, parce que vraiment au moment où il était où l'indice est passé à 5, il était pas bien du tout. Il était en crampe généralisée. Ah, c'était du ciel.
C'est pas bon pour Djoko. C'est pas bon pour Djoko, parce que s'il fait très chaud comme ça, quand t'es vieux, tu t'exploses.
Il faut avoir demain, il fait 20, il va faire frais.
Demain, il perd 20 degrés.
Demain, il perd 20 degrés.
C'est le changement climatique, ça.
C'est un dérèglement terrible. Terrible. Ben là, moi, j'y crois pas, mais bon. Le mec, il a cette polémique.
Bon.
Ça, c'est normal, il fait moins 50 aux États-Unis. Ça va mieux.
Marion Bartoli, est-ce que l'espoir existe d'aller loin, d'aller au bout, de battre Sinner?
Avec quelqu'un qui en a remporté 24, moi je dis que l'espoir existe toujours. Mais en revanche, c'est vrai que sur le face-à-face contre Musetti, c'est largement la faveur Novak, puisqu'il mène 9-1 et la seule fois où il a perdu, c'était à Monte-Carlo en 2023, donc sur terre battue. C'est la demi-finale contre Sinner. Alors ça a été la demi-finale de Roland-Garros l'année dernière, c'était la demi-finale de Wimbledon. Malheureusement pour Novak, il s'est incliné à 2 reprises et en 3-7. Il s'était joué en 2024 sur la demi-finale d'Open d'Australie, ça avait fait 4-7 pour Yannick Sinner. Donc le très très grand défi aujourd'hui, c'est d'arriver à battre Yannick Sinner. Alors, est-ce que finalement, s'il fait chaud le jour où il joue Sinner, ça n'a pas avantagé plutôt Novak Djokovic? Parce qu'éventuellement, dans cette cuve australienne, bah, lui, il a remporté le tournoi déjà 10 fois. Donc, il sait comment gérer ces fortes chaleurs australiennes qui peuvent être extrêmement difficiles pour Yannick Sinner. Pour lui, on l'a vu déjà à Shanghai, devoir abandonner pendant le match parce que trop d'humidité et trop de chaleur. On sait très bien que c'est quelque chose aujourd'hui qui le dérange encore. On ne sait pas s'il sera sauvé à nouveau par le toit, mais c'est vrai que tennistiquement, sur la fin du tournoi, ça va être dans des niveaux extrêmement élevés. Entre Alcaraz et Zverev, les head-to-head sont, les face-à-face, pardon, sont 6 à 6, donc on ne sait pas même de l'autre côté qui va passer. Mais ça va, la bataille va être vraiment sur la fin du tournoi. S'il a un match en moins, au moins, s'il a un match en moins, au moins, il aura plus d'énergie et il pourra donner vraiment le maximum sur les deux derniers matchs à aller chercher sont la demi-finale et la finale.
Vincent, est-ce que tu y crois un petit peu?
Bah, j'y crois, j'aimerais y croire. Parce que ça ferait plaisir de le voir en finale. Après, même si en finale il prend Sinner, il se fait coller. Bon, mais c'est juste ce que je veux te dire. Alcaraz.
Sinner, c'est en
demi-finale.
Ouais, demi-finale. Donc, écoute-moi, ça ferait plaisir. Ouais, bien sûr que j'y crois un peu, mais. J'ai quand même du mal quand même.
Non mais s'il fait encore une demi, imagine, c'est déjà monumental,
oui,
en fait. Il va jamais arrêter.
Bien sûr.
De jouer.
D'accord, mais fait une demi, mais ça sent quand même, c'est poussif. Là, il y a un quart qui joue pas, il a un coup de bol, il y a le quart qui il joue pas ce quart, il va directement en demi. Bah, écoute-moi,
Attends, il est très en forme depuis le début du tournoi.
Oui, il est très en forme, mais j'ai du mal ce métier-là.
Et tout il a 38 ans.
Oui, mais le gros problème de l'âge, c'est la récupération. Et ce métier n'est fait que de récupération.
Il a eu.
Mais oui, ça, c'est justement. Un coup du sort. C'est un coup de bol. Mais ce métier-là, il faut jouer le lendemain. Si tu joues le lendemain, quand t'as 38 ans, c'est là le problème. Parce que tennistiquement, tu le prends sur 2-7, tout ça, je suis sûr qu'il a un niveau incroyable. Incroyable, digne des meilleurs, de Sinner, d'Alcaraz, tout ça. Le problème, c'est que le lendemain, il faut y aller.
Non, mais il aura un jour de récupération.
Ce que je veux te dire, quand tu vieillis, Marion, quand tu vieillis, nous, on a joué des matchs, tout ça, quand tu vieillis, quand t'as 40 match à jouer dans l'année, et bien quand tu vieillis, tu c'est pas parce que tu perds ton talent, tu le perds pas ton talent, la vitesse même, tu la gardes, la récupération, tu l'as pu, et au tennis, il n'y a que ça qui compte, les mecs jouent tout le lendemain, voire le surlendemain, et tu peurs parce que tu fais des matchs de 4h, 4h30, suivant contre qui tu tombes, et bien ça décide pour toi si tu vas pouvoir continuer ou pas, et à 38 ans, crois-moi, c'est très important.
Si je peux me permettre depuis le début du tournoi, il a pas perdu de set. Il est en forme, il fera plus fort en coup droit. Il a fait un très gros travail pendant l'intersaison pour justement être préparé physiquement parce qu'il sait que ça va se jouer sur ces deux derniers matchs. Il a eu 3 jours de repos consécutifs. Il affronte un adversaire Musetti qui connaît par cœur en quart. S'il arrive cette fois-ci, ça c'est bien cette fois-ci où il va arriver avec beaucoup plus d'énergie que d'habitude sur les autres tournois du Grand Chelem où sur la fin il a déjà laissé des sets.
Les conditions sont idéales, on peut dire ça.
Pour lui, c'est
voilà. Après, je sais pas tennistiquement ce que ça va donner, mais...
Eric. Non, mais du coup, puisque... Alors là, j'ai une question...
Marion, je vais te répondre.
Alors, tu vas me répondre. On est d'accord que l'Open d'Australie, c'est quand même son préféré. C'est pas celui-là son préféré.
Bien sûr. Il est chez lui.
Celui qui l'a remporté plus de fois.
Voilà, donc il est chez lui. Donc, on fait des débats depuis je sais pas combien de mois pour savoir si un jour, il en regagnera un.
Eh ben, c'est peut-être celui-là.
C'est celui-là. C'est peut-être celui-là. Parce que Marion l'a dit, moi j'ai pas vu le match encore. Marion l'a dit, il est bon. Je suis complètement d'accord avec Vincent. Quand tu vieillis, ben, ce qui est terrible, c'est de
remettre
tous les jours. Ça, c'est compliqué. Donc, franchement, les lunes du Moscato Show, ça s'est aligné encore une fois.
Ah oui,
et d'après moi, d'après moi, s'il gagnait pas celui-là, avec la récupération, le fait qu'il joue bien et c'est son tournoi, ben, comment c'est il va fini. Faire pour gagner les autres
Wimbledon, peut-être.
Voilà. Sans, la Marion, oui, certains peut-être. Voient Shelton peut-être le troisième larron de cette époque-là. Est-ce qu'il peut se hisser à un niveau qui lui permet de temps en temps d'attraper Alcaraz ou Sinner en grand chelem?
Alors j'aimerais, mais les derniers face-à-face, encore une fois, c'est quand même 8-1 pour Sinner. Et surtout, c'est le premier match chez Shelton qu'il avait gagné. Et les 8 suivants, ça a été Sinner. Dont en plus la dernière confrontation en dur intérieur, donc en indoor, au Masters de fin d'année à Turin, où ça fait quand même 2-7 assez facile pour Sinner, alors que c'est la surface pour un gros service.
Ouais,
plus avantagé. Et malgré ça, malheureusement pour Ben, il a pris de... Il est en très grand progrès. C'est un joueur qui est flamboyant. C'est un joueur qui est capable vraiment, avec son service, de mettre beaucoup de joueurs en difficulté. Mais Sinner comme Alcaraz ont une capacité à élever leur niveau de jeu. D'ailleurs, j'aimerais avoir un petit message pour Alcaraz, parce que je doutais du fait qu'il ait... qui soit séparé de son coach Juan Carlos Ferrero. Et là franchement, t'as le niveau de jeu qu'il a démontré contre le niveau de jeu qu'il a démontré contre Dominor, c'était époustouflant, c'était monstrueux.
7-5,
donc 6-2, il a totalement oui, il m'a totalement converti au fait qu'il peut parfaitement jouer seul et qu'il a un tel talent qu'il peut y arriver absolument tout seul.
Tu as vu Marion, même Juan Carlos Ferrero qui lui dans une interview dit qu'il a du mal à regarder les matchs de son poulain Alcaraz. Qui dit je vois tout le monde dans le coin là, toute l'équipe. Moi, j'y suis plus.
Oui.
Bien sûr, c'est crève-cœur pour lui. Il l'a formé depuis l'âge de 14-15 ans. Il l'a ramené numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem. C'est quasiment comme son fils spirituel, comme un enfant pour lui. Donc, bien sûr que c'est difficile. Mais franchement, Carlos Alcaraz, c'est un talent monumental.
Qu'elle va du la bagnole. Hein.
Il y a toujours des bêtises.
Il y avait quelques sous de côté, je pense.
C'est l'heure du journal moyen, première édition. Deux matchs, quand même, qui nous font saliver demain matin. Alors, très tôt, évidemment. Je pense que si tu as une petite insomnie, tu peux te mettre sur l'Open d'Australie. Ouais, ça va valoir le coup.
Tu me lèves très tôt.
Journal moyen, Adrien.
La première édition, Fabien Galthié était à sa façon présent au forum de Davos, forum économique, avec tous ses discours de Trump, Macron.
Les lunettes.
Les lunettes et son anglais également. Et puis Vincent Moscato, attaqué par un ami dans Danse avec les stars.
Ça c'est moche.
Un ami qui n'est pas non plus un danseur étoile. Hein. Donc avant de se moquer,
faut réfléchir. J'ai rarement vu des danseurs étoiles. Après, il y a des jeunes qui se démerdent pas mal.
Journal moyen, première édition, c'est tout de suite et on parlera d'une Formule 1 à acheter.
15h41, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h45, on est dans le Super Moscato Show, comme tous les jours de 15h à 18h, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouet, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, et puis un peu de géopolitique, on en saura d'une certaine façon au Forum économique de Davos.
Ouais.
T'imagines, t'arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais? T'allumes un ordinateur.
Ouais, mais Benzema nous donner son avis. Hein.
Vincent Moscato.
Tu peux des raisonnements, moi.
Vincent Moscato attaqué dans Dals, dans l'émission dans laquelle tu as brillé plusieurs fois, Vincent.
Oui.
C'est scandaleux.
Très bon, les gens s'en souviennent.
Et puis j'ai un petit plan pour acheter une Formule 1, une vraie Formule 1, une Ferrari. Ça se passe maintenant à Paris, on va se dépêcher.
Déjà, allez-y, non? C'est pas celle de Jean,
allez-y.
Quand t'as des grosses, tu les mets quand t'as des grosses dans la Formule 1.
Tu
dois faire les courses le samedi dans les 16 autos.
Ils font du vélo à côté de toi. Vous écoutez RMC, c'est le 2506e journal moyen de l'histoire de Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Il y a des formules de place.
Oui.
Et là, ils vont
faire
un break.
Dacia Formule 1.
Non, mais je te jure qu'il y a des places, tu peux le faire.
Apolline, maintenant, un petit tour chez Apolline ce matin. C'est la chronique écho, tu l'adores, Vincent. Emmanuel de Chypre. Ça passe, mais je le préviens, la mâchoire, on a la limite, ça passera pas tout le temps.
Pour les banques centrales qui reconstituent des réserves de métal jaune, ça c'est structurel. Et puis il y a la recherche de valeurs refuges, face à la dette colossale.
Mais on sent qu'il est surveillé. On sent que Pauline le surveille. Ça va. Il se lève tôt, Manu Le Chypre, voilà, il a le droit de fourcher légèrement.
Oui, après il mange des croissants, chocolatine croissant sur le matin. Le matin, il se gave comme un petit gouré.
Alors si une séquence inédite, rugby et politique internationale.
Allô John. Oui Johnny. Oui Steve. Il parlait à Steve, c'est John. Oui Steve.
C'était à l'époque où Fabien Galthié découvrait la vidéo, les échanges entre les arbitres et le quart vidéo. Alors Fabien Galthié aime le journal moyen première édition. Hier à Édimbourg, il était présent. C'était la grande présentation du tournoi Destination. il était de bonne humeur. Et on aime bien quand il est de bonne humeur. Et à la fin de la conférence de presse avec Wilfried Templier, petite référence à l'actu, toujours bien senti Fabien, on adore quand il est comme ça, référence à la situation internationale, à une citation, à une phrase qui est devenue culte.
Dernière question Fabien, il y avait un sujet que j'ai pas pu faire là. Dont je t'avais parlé derrière.
For sure.
Vous le voyez que son regard coquin là. Et ses lunettes. Alors lui, il a pas de lunettes de soleil, forcément.
Bien sûr, ouais.
Bon, ben voilà, c'est pour les gens qui vivent sur la Lune. Ça, c'est une phrase qui doit devenir culte. Emmanuel Macron, discours au Forum économique de Davos. Lunettes de soleil à la Tom Cruise. Et un accent bien forcé, bien français.
Which sometimes is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure.
Non, mais c'est pas possible. Oh, il a répété avant, je pense. C'est pas exprès. Et ce que vous ne savez pas, Marion, Éric et Pierrot, c'est que Vincent était présent à Davos en tant que conseiller spécial.
Chez mon banquier, là-bas.
En tant que conseiller spécial, mais de Trump, lui, Vincent. Il était conseiller spécial de Trump. Donc, j'avais un espion. Il y a une réunion entre tous les gens, entre tous les décisionnaires. Et Vincent s'est un peu pris la tête avec Emmanuel Macron, en anglais, pour que tout le monde comprenne dans la salle. Légère incompréhension entre Vincent Moscato et Emmanuel Macron, c'est comme ça, c'est Kaboulox.
C'est vrai, con.
You know from me, c'est action, just use.
For sure.
Jection, just use.
For sure.
You understand what I mean?
For sure.
Excusez-moi, je répète, j'ai casting avec Robert De Niro.
Ah ouais, à la fin, t'es obligé de dire que t'es en train de For sure.
For sure.
Sans transition. Sure. Vincent, tu as dansé à l'époque. Tu as dansé.
Ah bah ouais, c'était Fantasia.
Non, mais c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal.
Ah, merci.
Tu t'es bien entraîné.
C'est mon seul supporter.
C'était une belle aventure. Depuis vendredi, c'est reparti. Nouvelle saison de danse avec les stars sur TF1. Et Vincent, attaqué mais très rapidement, mais très gratuitement, par Philippe Lelouch. Vous connaissez Philippe Lelouch, qui travaillait sur RMC. Ouais. Grand monsieur de théâtre, de cinéma, metteur en scène, acteur, etc. Donc Philippe fait partie de l'aventure. Il intervient. Et d'ailleurs, on parle même pas de lui à ce moment-là. C'est un petit sujet, un portrait de Stéphane Bern qui participe à Danse avec les Stars. Donc écoutez l'intervention rapide en plein sujet de Philippe Lelouch. C'est bien senti, c'est pas gentil.
Je le prends comme un véritable défi. J'ai envie que mon compagnon soit fier de moi. J'ai envie de surprendre, mais j'ai envie de me surprendre.
Pas d'inquiétude, avant toi, il y a eu Vincent Moscato. Faut quand même que tu te souviennes de ça.
C'est vrai.
Donc tu peux
c'est
pas faire pire.
Stéphane, ta première danse, tu...
Non, mais c'est incroyable! C'est incroyable!
C'est
quel enfoiré, je veux l'appeler!
Ils sont bien contents d'avoir Vincent Moscato pour
Vincent,
faire des audiences.
Et de mémoire, parce que j'ai vérifié, les audiences étaient quand même bien plus hautes quand.
Oui, on verra.
C'était quand il y avait la saison de 20.
On verra, c'est Philippe Lelouch.
Alors, si Stéphane Bern attire les téléspectateurs, on verra.
Philippe Lelouch qui a été la cible des réseaux sociaux.
C'est vrai.
Parce qu'on le voyait souvent en arrière-plan, il avait donné l'impression pendant le prime de s'ennuyer, Vincent.
Non, mais c'est long.
Il avait sa petite vaporette, il fumait pendant sur le plateau, donc il s'est fait un peu allumer par les téléspectateurs.
Attention, c'est très très long.
Oui, oui, bah oui.
Moi, une fois, je m'étais endormi. Hein,
Je me souviens.
Jusqu'à minuit, ils te font du rire le samedi, le prime, jusqu'à minuit. C'est un enfer. T'es là. Tu sais à quelle heure t'attaques, Marion, le prime, les répétitions, à midi t'attaques.
Donc tu fais midi, une heure de nuit,
à faire des trucs, et pour pas un rond.
Pour un mec qui n'est pas habitué à travailler, ça fait beaucoup.
C'est quand même en une seule prise, malgré tout.
Non, c'est la compétition. C'est un live, ouais.
C'est pour ça qu'il répète depuis midi.
Eh ouais, depuis midi, tu répètes. Quand même.
Vincent Moscato,
des trucs dans lesquels
sur un Foxtrot.
Ouais, tu laisses du gaz parce que c'est pas quand même qu'on continue non plus, tu vois.
Sans transition, une belle voiture italienne à vendre, Vincent, jingle Italie, obligé.
Ah bah oui.
On est collègues. Calabrese, testa dura.
Et moi, je pense que c'était ma tête, parce que moi, j'avais commencé à travailler, j'avais 17 ans.
Qui t'avait pas calculé.
Il m'a balayé d'un revers de manche.
Il est toujours conseiller spécial chez Alpine, d'ailleurs.
Oui, ça ne meurt jamais, ces bateaux-là.
Alors aujourd'hui, là, en ce moment, là, j'ai pas encore le verdict, à l'hôtel Peninsula, Jean Alési met en vente, dans une vente aux enchères, l'une de ses Formule 1. Alors, je décris l'annonce.
Jean Nounoukou.
Parfait état de marche, moteur V12, 750 chevaux. Elle lui a été offerte par Ferrari à l'époque. C'était après la saison 1992. Il avait le droit de garder sa Ferrari. Cette saison, quand même Jeannot, hein, 7e au championnat du monde, remporté à l'époque par Mansell. Et depuis, elle était dans sa salle de sport. Elle était chez lui, dans sa villa. Alors, il est mignon parce qu'il dit « j'ai envie que c'est le moment pour elle de revivre ». Bon, il y a un certain prix quand même aussi.
Moi, je pense que j'aurais du mal à m'en séparer. Je pense qu'il doit avoir du mal à se séparer. Hein,
le prix de départ, environ 3 millions. Hey. Je n'ai aucune idée du prix à laquelle elle peut partir.
C'est une enchère.
Ouais, c'est une enchère.
Ouais, je pense
organisé
que
par
apparemment
Arcurial Motocar.
Ça peut partir très cher. Hein.
Apparemment, elle est partie à 2,5 millions d'euros.
Là, ça y est, tu as le verdict, Marion ?
Ouais. Elle a été vendue pour 2 millions.
Ah bah il doit être déçu Jean parce qu'il avait il pensait que minimum 3 millions. 2 millions et demi. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais après ? Tu l'exposes ? Exactement. Tu roules pas avec ?
Tu te la mets dans le salon, je te dis.
Et voilà, et tu mets une vitre dessus. Tu mets une vitre dessus, ça fait une table basse.
Vous êtes bête.
Tu fais danser. Quand t'as des amis, tu les fais danser.
Mais non, mais
sur
des collectionneurs.
Non, mais je crois que c'est magnifique.
Ça finit dans un garage de Némir ou de comme ça.
Non, mais même je te dis dans le salon, ça se finit bien, qui est magnifique comme ça, tu la mets.
Est-ce que tu peux les faire
c'est
démarrer
c'est bien, oui, bien sûr, oui. Ça roule.
Tu mets un peu de fuel.
Et oui, il a dit en parfait état de marche.
Oui, ça roule.
Tu mets un peu de diesel, ça part.
Il m'a dit, c'est parti. Et tu mets un peu de fuel, bien sûr, du mazout pour chauffer.
Tu pars en vacances, tu prends l'autoroute, c'est bon.
Vrai, tu peux y aller, non, bien entendu, c'est pas homologué du tout. Tu es obligé d'aller sur la piste.
Alors, non, tu fais du circuit. Tu fais du circuit.
Le monsieur qui s'appelle Mathieu Lamour, qui est le président d'Arcurial, qui organise la vente, disait, avant la vente, il disait, ce qui est rare, c'est qu'elle vient directement du pilote. En général, les Formule 1 appartiennent toujours à l'écurie, à l'usine, etc. Là, c'est le pilote qui cède sa Formule 1, ce qui en fait sa rareté.
Alors au niveau fiscal, c'est quoi ? C'est une résidence principale ?
Il habite à Avignon.
Comment ça marche, ça ?
C'est pas considéré
comme un truc de...
C'est pas d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui investissent dans les voitures de collection
écoute-moi ça doit quand même lui faire quelque chose.
Ah bah
moi
oui.
Je sais pas, moi ça me blesserait de vendre une Formule 1, j'aurais couru dessus et tout, ça me après
toi tu as essayé de vendre tes shorts,
t'as des maillots encore de
oui mais avec la trace.
Tiens Marion, est-ce que tu as encore ta raquette qui de la balle de match de Wimbledon?
Alors, j'en avais 6 dans le sac le jour de la finale. Je les ai utilisés, j'en ai utilisé 3 pour jouer pendant le match. Ouais. Parce que tu changes de cordage tous les 7 jeux. Ah ouais. Et j'en ai offert une à un président de la République et les autres, je les ai gardés.
Ah, à Mitterrand.
Et une à Tom Cruise. Donc
bon
il m'en reste
4. Non, mais les 3, mais Marion, les 3 que tu n'as pas utilisés. Tu en as fait quoi? Celle-là, tu
les as donnés? Non, je les ai gardées en cadré.
Elles ont vendu sur le bon coin.
Non. Mais tu sais que par contre, je rejoue avec maintenant, et pourtant ça fait 12 ans, les cadres normalement devraient être abîmés et tout, et ben j'ai les mêmes sensations.
Avec ces raquettes, tu battrais Stephen Brun par exemple?
Ah non.
Ah voilà, mais là je t'explique, je perds pas un jeu.
Non mais Mario, tu t'entraînes un peu là. Parce que nous on veut que tu le rousses le grand là.
Va sur Instagram, regarde mes vidéos, je suis affûté, je suis affûté.
Tu perdrais quelques jeux quand même.
Je suis affûté, je suis affûté.
Tu perdrais quelques jeux quand même, rassure-nous.
Mais jamais de la vie.
Ah, il paraît qu'il a un gros service.
Serena Williams.
Bubule.
Attends, j'ai même braqué Serena, franchement.
Non mais Bubule, gros, longtemps.
Non mais vous me prenez vraiment pour une pipe, hein.
Mais nous on veut que tu le crèves, nous.
C'est nous, on écoute.
Mais nous on veut que tu le crèves, nous.
C'est le grand qui nous dit que tu gagnerais pas contre lui. Le grand, il nous dit, non mais Serena, c'est Mario, c'est une fille, en plus, elle n'a rien dans le bras, elle n'en voit plus, tout ça.
Oui, bien sûr. Il a quoi comme palmarès? Rappelle-moi,
tu as comme palmarès. De la Ligue des Champions, êtes-vous convaincu? On fait le bilan après deux saisons de la nouvelle formule de la Ligue des Champions avec vous au 32-16 sur RMC.
Il est 15h55.
Tu seras pas déçu, Eric, promis.
Le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.